Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Bah, ça y est, nous y sommes. Hein. Donc, spécial Coupe du Monde pendant 2h, 19h, 21h. Donc, au bout du foot consacré à la plus grande épreuve sportive pendant plusieurs semaines. Alors, non, eh ben, on va le faire comme en deux parties, comme un match de foot. On aura une première partie, donc 19h, 20h, première équipe. Et puis, d'autres passionnés de foot qui viendront, en tout cas, en deuxième heure, donc également parler de ce mondial. Donc, je veux saluer tous ceux qui sont là pour cette première mi-temps avec nous. Bonsoir Théo, ça va?
Bonsoir Philippe, ouais, ça va très bien et toi?
Forme, t'as bien récupéré de samedi?
Ouais, j'ai bien dormi dimanche.
Dans les rues, là.
J'ai bien dormi, j'étais voilà, fatigué.
Très bien. Bonsoir Maxence.
Salut Philippe.
Comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
T'as troqué le maillot de l'OM pour l'équipe de France?
Ça y est, là, on est en traîne avec l'OM et on profite un peu de vraies équipes de football.
C'est bien. Bonsoir à notre historien du sport et donc du foot, Pierre Lagrue. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Ouais, ça va, pleine forme Pierre?
On va dire ça, oui, ça va.
Ouais, c'est très bien. Et puis, bah, ils sont là aussi, hein, nos deux acolytes, Stéphane Sorando. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir à tous.
T'es en pleine forme?
Oui.
Ça va?
Ouais.
Et puis, Marius aussi.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir
voilà,
à tout le monde.
Alors, messieurs, première question, hein, avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment vous trouvez ce début de Coupe du Monde? À tour de rôle, Théo?
Bah pour le coup pas trop mal, ouais. On a quelques belles oppositions.
Il n'y a pas de 0-0
pour l'instant, il n'y en a aucun.
Ouais.
Il n'y en a aucun, des belles équipes, des belles surprises aussi. Ouais. On a eu quelques premières belles rencontres, je pense à Brésil-Maroc notamment. Donc oui, assez content pour l'instant, assez content. Ouais.
Et toi Maxence?
Moi je reste un peu sur ma faim, après ouais, c'est normal, je trouve que ça s'étend un peu en longueur, ça fait une semaine que c'est parti, on n'a pas encore vu la France, on n'a pas encore vu l'Angleterre, l'Argentine, le Portugal, plein d'équipes que j'ai envie de voir.
Il y a 104 matchs, attention.
C'est pour ça que ça va être très très long, donc faut garder le rythme, ça va être un marathon. Mais voilà, moi je suis un peu sur ma faim, je commence à y rentrer doucement dans ma Coupe du Monde, mais je pense que d'ici quelques jours, là, quand les gros seront rentrés, on aura un aperçu un peu plus global.
Et puis c'est vrai qu'il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans les impressions sur un premier match. Hein.
Bien sûr.
La Coupe du Monde, c'est ça, hein. C'est l'épreuve d'un mois, maintenant même un mois et demi. Donc il faut essayer de ne pas trop tirer d'enseignements hâtifs, dirons-nous, des premiers matchs. Pierre, cette Coupe du Monde?
Alors pour l'instant, je ne me suis pas intéressé au football. Parce
ah bon
que c'est trop tôt, les matchs du premier tour ne servent pas à grand-chose. Mais par contre, il y a l'avant-Coupe du Monde, il y a la politique de Trump et des Fantino.
Ah oui, ça c'est un autre débat.
Moi non, je ne peux pas mettre ça sous le tapis, je peux pas me...
Ça, c'est mettre... l'historien qui parle, ça.
Ouais, je peux pas mettre en... ouais. J'aime la Coupe du Monde à partir du moment où on aurait tué un arbitre parce qu'il est somalien, ou les supporters sénégalais n'ont pas le droit de venir. C'est tout un tas de choses qui, moi, m'ennuient profondément.
Mais bon, j'espère que le terrain l'emportera. Donc, si le terrain l'emporte, si tu as des beaux exploits, des beaux buts...
Je sais pas.
Ouais.
Bon, il faudra vraiment que ce soit le spectacle à la hauteur.
Ouais. Et toi, Stéphane, ça te plaît bien ce début de Coupe du Monde?
Ouais, il y a de belles histoires jusqu'ici. Enfin, moi, personnellement, j'étais pas vraiment rentré. Je suis très diesel, moi, dans cette Coupe du Monde. Hein. Je suis pas encore pleinement rentré dans le vif du sujet.
Je pense que c'est la formule de l'épreuve, hein, maintenant.
Oui,
hein,
oui,
104 matchs, 5 semaines de compétition.
Il y a 4 équipes dans chaque poule pour 12 poules. Ouais, 4x12, 48, ça fait beaucoup, beaucoup de matchs. Non, c'est vraiment, je suis en mode diesel. Mais il y a quand même quelques belles histoires. Moi, je pense à Curaçao, même s'ils sont fait détruire par l'Allemagne, mais ils ont quand même inscrit le premier but de leur histoire en Coupe du Monde. Haïti aussi, qui a été loin d'être ridicule face à l'Écosse. Donc, ouais, il y a quelques belles histoires. Et puis, 2-3 favoris qui commencent lentement, mais sûrement à se montrer. Oui, le Brésil face au Maroc, c'est jusqu'ici, pour moi, c'est le plus beau match, même si ce n'était pas une victoire. C'est le plus beau match en termes d'opposition qui s'est déroulé jusqu'ici. On attendra la suite.
Ouais, on va en parler, on va revenir donc sur tous les matchs qui ont lieu, ceux qui arrivent de ce soir. Et puis, on parlera un petit peu de l'équipe de France, qu'on aura largement l'occasion de reparler demain, parce que demain, vous n'oubliez pas, hein, on est en direct 20h minuit. Hein, un avant-match, le match en direct, et ensuite les commentaires d'après-match. Hein, donc, on aura largement l'occasion de parler de cette équipe de France. Marius, toi, je crois que tu bats un record, t'es pratiquement celui qui a vu tous les matchs.
Alors, moi, justement, je voulais vraiment rentrer dans cette Coupe du Monde.
Ouais.
Donc, parce que j'avais l'occasion aussi de voir les matchs, il faut le dire, il y en a, ils n'ont pas forcément le temps.
Ouais.
Bon, j'en ai raté qu'un seul. Hein. Ouais. Voilà,
mais tu sais que les journalistes sur place, ils ne voyaient pas tous autant de matchs. Parce que entre les avions, les déplacements, ah oui, les séances d'entraînement et les équipes qui suivent, ils ne peuvent pas tout voir.
Ouais, hein. Après, je vais avouer aussi qu'il y a certains matchs où je me suis endormi devant quand même. Ah bah certains matchs, voilà, je ne vais pas citer les équipes.
Non,
mais
on dira s'il faut le dire.
Voilà, sinon, non, globalement, moi j'ai beaucoup aimé l'ouverture aussi. Moi j'ai bien aimé le match d'ouverture de du Mexique.
Oui. Bah, on va en parler.
Bonne ambiance sud-américaine, j'ai bien aimé en tout cas.
Ouais. Alors moi, il y a une chose qui m'étonne, on en parlait hors antenne. On parlait justement de cette Coupe du Monde aux USA, les prix, tout ça. Et les stades, ils ont l'air remplis. Moi, j'ai pas vu des stades.
Malheureusement, il y a certains matchs que j'ai vus, c'était pas rempli.
Lesquels?
Par exemple, moi, je pense à République Tchèque-Corée, c'était pas rempli. Ah oui, Alors que pourtant, il me semble que c'est le deuxième match ou le troisième match.
C'était le deuxième match. Donc,
mais le Mexique, c'était rempli. L'Allemagne, hier, c'était rempli. Brésil-Maroc, c'était rempli.
Après, dans ces pays-là, il y a aussi une grande partie de la population qui a les moyens. Enfin, une petite partie de la population, mais qui a des gros moyens. Mais en fait, cette Coupe du Monde, elle exclut 80% de la population américaine et mexicaine. Donc, c'est une petite partie de la population qui est concernée et qui peut se payer ce genre de billets.
Ouais, là, par contre, on voit.
C'est clairsemé.
Là, c'est clairsemé. Là,
ça vient de reprendre.
Espagne, Calvaire, effectivement. Ouais. Là, on voit beaucoup de sièges libres.
Après, on parle quand même de là pour le coup, Espagne, Calvaire, c'est clairsemé. On parle quand même d'une équipe qui est championne d'Europe en titre face à une équipe entre guillemets exotique. Il y a 0-0, ce qui est une performance si on se positionne du côté du Calvaire. Mais même de manière générale, tu fais bien de le mentionner, Maxence. C'est vraiment la Coupe du Monde des riches. Quand je vois le slogan en football. Unite the World, non, je suis désolé, non, c'est pas tout le monde qui réunit là.
À 6$ la bouteille d'eau, 18$ la bière.
Non, c'est juste pas possible. Et puis 98$ le train pour les transports
pour rallier le stade, c'est n'importe quoi.
$300, je crois, les places de parking en moyenne. C'est affolant.
C'est complètement fou. Comme on le disait avec Pierre, on espère quand même que le sport l'emportera et que les exploits de nos joueurs préférés de foot, finalement. Feront un petit peu oublier les travers de cette Coupe du Monde.
On peut l'espérer, mais c'est pas garanti. Dès le match d'ouverture, il y a quelque chose qui a été passé un peu sous silence. La seconde période a repris avec une minute de retard.
Oui, pratiquement tous les matchs.
Parce que la pub n'était pas terminée aux USA. Donc on est vraiment dans une Coupe du Monde des riches et des télés.
Bon, Marius, on remonte un petit peu les matchs qui se sont passés. On a commencé avec donc le match d'ouverture. C'était Mexique-Afrique du Sud. Alors là, c'est vrai qu'on peut être satisfait du Mexique qui a fait complètement le job.
Devant
un public enthousiaste. Ils ont vraiment fait une bonne entame de Coupe du Monde. 2-0.
Il y a eu une belle histoire aussi avec Jiménez, par exemple.
Oui.
Jiménez qui, on rappelle, revient d'une blessure au crâne. Hein. Il a failli... De ses propres mots, décédé sur le terrain. Il a marqué le deuxième but, donc bonne réussite pour le Mexique. On a eu ensuite le deuxième match.
On va quand même discuter un petit peu les matchs. C'est un match à sens unique, faut le dire. L'Afrique du Sud, ils ont fini à 9.
Voilà ce que j'allais dire. Ils ont pris un rouge plutôt tôt. Après, c'était fini. Et le deuxième après. Bon, après, c'était fini.
Par contre, le rouge mexicain, il peut être invité. Je vois pas.
Oui, oui.
C'est un petit peu ridicule de faire une telle faute quand on mène 2-0 dans le temps additionnel. Quoi.
Le joueur africain, il se décale sur le côté. Il vient faire une faute. Le mexicain, totalement inutile.
Stéphane, t'en penses quoi?
Mexique. Au niveau du match du Mexique, bon, c'était une bonne entrée en matière. Pareil, il y a aussi un truc à noter au-delà du match, parce que honnêtement, le match, je vais pas dire qu'il était sans intérêt, mais vraiment, c'était à sens unique. Il y avait deux classes d'écart. Le Mexique était vraiment au-dessus, bien sûr. Mais ce que je voulais quand même noter, c'est que justement, quand on regarde le match du Mexique, avant le match, il y avait la cérémonie d'ouverture, et ce dispositif-là était dupliqué à la fois aux États-Unis et au Canada, ce qui a donné de très très belles entrées en matière. Pour les équipes concernées et puis pour les supporters afin d'entrer pleinement dans cette Coupe du Monde. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique.
Maxence ?
Moi, j'ai envie de prendre le prisme sud-africain et j'étais déçu par l'Afrique du Sud parce que je m'attendais à beaucoup mieux. On disait deux classes d'écart et c'est vrai, mais avant le match, je me dis pas que je vais regarder un match avec deux équipes qui sont totalement dans des sphères différentes. Et en fait, j'étais déçu par l'Afrique du Sud qui nous a montré plutôt des belles choses à la CAN. Celle-là, c'était correct, et celle d'avant surtout, où c'était encore mieux, avec une demi-finale, si je ne me trompe pas. Et je m'attendais à mieux là, pour ce rendez-vous-là contre un Mexique sur lequel on ne savait pas trop comment ils allaient gérer cette pression du premier match, du match d'ouverture à domicile. Ça fait quand même beaucoup pour des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de rendez-vous. Donc moi, j'ai été très déçu par l'Afrique du Sud, parce que même à 11 contre 11, c'était vraiment très très moyen ce qu'on voyait, avec un premier but qui est donné notamment.
Ouais.
Donc voilà, j'attends un réveil pour eux sur les deux prochains matchs contre des équipes qui sont un peu plus jouable, la Corée et la République tchèque. Donc il va falloir qu'ils passent la seconde.
Après, le Mexique, c'est une équipe qui va régulièrement à peu près bien en huitième de finale. Hein. C'est à peu près son plafond de verre. Hein. Donc,
et globalement, quand on sort le Mexique, c'est qu'on est bien lancé pour la compète.
Ouais. Théo ?
Je partage totalement l'avis de Maxence. C'est assez déçu tout de même de cette Afrique du Sud que j'ai trouvé tout du long du match.
On en parlait samedi.
Sans solution. Il ne s'est rien passé à part justement essayer de mettre des coups de plus en plus durement jusqu'à prendre ses cartons rouges. Donc assez déçu, en espérant qu'ils vont potentiellement se réveiller pour les prochains matchs.
Alors le deuxième match était Corée du Sud Tchéquie 2-1.
2-1, ouais. Et remontada des Coréens, parce qu'ils étaient menés 1-0 par la Tchéquie. Ouais. La Tchéquie qui m'a fait penser à une équipe qui s'appelle Arsenal. Moi, j'ai regardé le match 90 minutes. C'était vraiment, ils voulaient pas jouer au foot. Ils marquent sur coup de pied arrêté. Toutes leurs occasions, c'est sur coup de pied arrêté. La Corée qui vient, il me semble qu'il marque à la 75e puis à la 85e. Donc non, franchement, la Corée, j'ai été agréablement surpris qu'il retourne ce match. Ouais.
Oui.
Du côté de ce match-là, pareil, hein, je me suis plutôt rangé du côté de la Corée du Sud, déjà parce qu'il y a un nom qu'on connaît bien en France, à savoir Kang Il-li, qui a fait un très bon match. Mention spéciale aussi au gardien coréen qui a été impérial pour sauver justement les trois points en toute fin de match, avec deux arrêts.
Je crois que c'est ça.
Je suis désolé, j'ai du mal à prononcer son nom, mais oui, il a réalisé une fin de match assez phénoménale pour pouvoir préserver les trois points pour la Corée du Sud. Mais clairement.
Oui, puis le football asiatique, c'est quand même un football qui a progressé. Quand même,
bien sûr.
Les Japonais, les Coréens, c'est pareil. On parlait des 8e.
Même les Qataris.
Ouais, les Qataris, ça progresse aussi.
C'est un football qui a progressé.
Ouais, non, totalement. C'est vrai que le football asiatique progresse de compétition internationale en compétition internationale, parce qu'on les voit de plus en plus sortir des poules, surtout embêter les gros. Et pour moi, je suis assez d'accord. La Corée méritait vraiment de gagner ce match au vu de la physionomie et de ce qu'a proposé surtout la République tchèque. Donc, hâte de voir, parce qu'ils ont peut-être un coup aussi, eux, à jouer pour sortir de cette poule, parce que là, il faudra battre, je ne sais plus. C'est quoi le reste de la poule?
C'est Mexique.
C'est Mexique ou Afrique du Sud. Donc, pour moi, potentiellement à la portée.
Bien sûr.
À leur portée. Donc, à voir.
Un groupe très ouvert.
Ils peuvent terminer deuxième.
Potentiellement même premier, parce qu'ils peuvent embêter le Mexique.
Et toi, Maxence, t'es pas surpris non plus?
Non, je suis pas surpris. Ouais. Après, moi, c'est une réflexion que je me suis faite devant plusieurs matchs, dont celui-là. En fait, j'ai l'impression qu'il faut quand même réhabituer son œil. On sort de gros matchs de Ligue des Champions, le Bayern, le Real, le PSG, etc. Et là, on se retrouve devant des matchs qu'ont quand même, avec des joueurs qu'on connaît pas forcément, avec un niveau qui est différent, parce que quand Kang In-li, on le voit jouer tout le temps. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, c'est un bon joueur, mais il crève pas l'écran non plus. Là, t'avais l'impression qu'il faisait un autre sport que les 21 mecs avec qui il jouait. Et donc, du coup, faut réhabituer son œil à ce que ça aille un peu moins vite, à ce qu'il y ait un peu plus de déchets. Mais il y a aussi d'autres, ils ont d'autres armes, parce que c'est la patrie, on joue pour la nation, supplément d'âme, etc.
Mais tout le monde, ça joue tous les 4 ans.
Exactement. Et donc, voilà, sur cette première partie de Coupe du Monde, je pense qu'il faut y aller petit à petit et pas s'attendre non plus à des sommets footballistiques tout de suite.
Bosnie-Herzégovine, Canada, un partout. Alors là, quel gâchis le Canada.
Moi, j'attends personnellement, en tout cas, j'en attends beaucoup du Canada.
Ah, c'est pas un pays de foot.
Même si ils ont perdu, je crois, leurs 6 matchs de Coupe du Monde.
Ouais.
Mais moi, j'en attendais beaucoup et j'étais un peu déçu, honnêtement.
Ouf.
Il y a eu une grosse occasion pour l'Espagne.
Il y a une grosse occasion espagnole là.
Canada.
À la 52e minute face au Caverne, mais toujours 0-0.
Non, Canada, j'ai été déçu. Après, il y a eu des grosses occasions. Il y a eu une barre, je crois, à la fin du match.
Ils ont quand même été plus pressants, plus dangereux en deuxième mi-temps. Parce que c'est une domination qui est complètement stérile en première. Que de ballons gâchés dans la finition, dans le dernier geste, c'est quand même incroyable.
Pourtant,
quoi.
Ils ont quand même des joueurs. Moi, je pense à Jonathan David, Davis. Donc, non, moi, ils ont quand même une équipe, quoi qu'on en dise.
Ouais, mais bon.
Donc, moi, j'ai été déçu du Canada.
Et la Bosnie qui a été hyper efficace, hyper réaliste. Voilà. Ils ont même failli tuer le match en deuxième mi-temps.
Oui. Et c'est un très bon point pris pour la Bosnie. Bosnie qui est passée au pénalty contre l'Italie.
Ils jouent derrière, bon. C'est ça le problème, il joue derrière.
C'est
De ce que j'ai vu du match entre la Bosnie et le Canada, très clairement, le Canada a bouffé la feuille de match.
Ouais.
Vraiment, la domination, elle était majeure de la part du Canada, mais domination stérile.
Ouais. C'est un moindre mal qu'ils arrachent le match nul.
C'est vraiment un moindre mal. Mais honnêtement, ils auraient dû tuer le match beaucoup plus tôt.
Ils auraient dû marquer beaucoup plus tôt.
Jonathan David qui est passé à travers, je crois que même le terme, il est faible parce qu'on attend beaucoup de lui. On parle quand même d'un joueur qui, même s'il est passé par Lille et qui a marqué quelques pions en Ligue 1 et en Ligue des Champions, on parle d'un joueur qui joue à la Juventus, quoi. Donc, on en attend beaucoup plus d'un joueur comme ça en tant que guide de son équipe dans sa Coupe du Monde, quoi.
Ouais.
Et face à la Bosnie, eux, c'est le rapport qualité-prix, rapport prestation, rapport
ils ont été hyper réalistes,
et derrière, ça leur permet de garder le point du nul, quoi.
Tu peux pas faire tout un mondial comme ça.
Certes, mais bon, c'est une autre manière de jouer au football, ils jouent avec leurs armes.
Mais ils sont pas là pour faire un mondial, ils sont là pour sortir de la poule, éventuellement.
Grand maximum. Heureusement pour le football, là, d'ailleurs.
On critique beaucoup la Bosnie, mais moi, je trouve que ce qu'on retiendra, c'est qu'ils leur ont pris un point aux Canadiens. Ils jouent souvent les troubles fêtes, c'est bosniaque, décidément. Envie, presque, forcément, de les féliciter.
C'est jamais un
hasard quand ça arrive plusieurs fois. Donc, certes, c'est pas beau, pour tout un pays, ça fait un point remporté en Coupe du Monde. Et mine de rien, c'est pas rien, justement. Donc, à suivre.
Voilà, alors ensuite, il y avait États-Unis qui ont écrasé le Paraguay 4-1.
Pour moi, c'est une de mes équipes coup de cœur. Depuis le début de cette Coupe du Monde, j'ai été agréablement surpris de cette équipe des États-Unis. Franchement, le match d'ouverture qu'ils font, c'était le football total. Mi-temps 3-0. Après, en deuxième mi-temps, il y a eu un moment de doute vite fait. Ça revient 3-1, puis ils mettent le quatrième à la fin d'un but somptueux extérieur du pied à la 98e de Reina. Non, franchement, c'est une de mes équipes coup de cœur pour l'instant.
Oh, mais il faut que ça dure aussi.
Faut que ça dure, mais moi j'y crois. Franchement, ils sont chez eux, donc moi j'y crois. J'y crois beaucoup cette équipe.
Ouais. Théo, tu partages la même opinion ?
Agréablement surpris en effet. Je m'attendais pas vraiment à ce niveau-là des États-Unis. Après, j'ai pas forcément envie de m'enflammer non plus. Quand il y aura potentiellement un peu plus d'opposition aussi, même si le Paraguay reste une équipe agréable à voir jouer. En Coupe du Monde, mais surtout un gros match notamment de Balogun, sacrément impressionnant, sacrément impressionnant. Donc encore une équipe à suivre et c'est bien pour la compétition.
Oui,
totalement d'accord. Pour le coup, le Canada a totalement flanché à domicile pour leur match d'ouverture. Les États-Unis avaient aussi une grosse pression avec un Trump qui passe le coup de fil dans le vestiaire juste avant, etc. Et puis les mecs, ils ont quand même assez lourd sur les épaules. Ils ouvrent leur Coupe du Monde à domicile. On en parle depuis un bon moment, tous les scandales qu'il y a autour, etc. Et sur le terrain, ils ont répondu présent. Je sais pas ce que ça donnera de cette compétition, mais à mon avis, ils vont quand même être durs à jouer, durs à sortir parce que à domicile, avec les 2-3 coups de sifflet qui sont pour le pays organisateur historique, on va dire.
Dossier, là.
Non, mais c'est toujours un peu comme ça.
Ouais, c'est donc, connu que dans la Coupe du Monde, il y a
la Corée en 2002, ils sont durs à sortir.
En 2002, c'est un scandale absolu là-dessus, je suis d'accord.
Ils méritent même pas la quatrième place pour moi.
Donc, à mon avis, en 16e ou en 8e, si tu peux éviter les États-Unis, c'est pas plus mal. Voilà.
On va rappeler qu'ils avaient fait un 8e de finale, je crois que c'était la Coupe du Monde 2014, c'est ça.
Ils vont souvent assez loin, les États-Unis.
Ouais, c'est des compétiteurs aussi.
Ils passent les tours.
Et ça progresse aussi parce qu'il y a de plus en plus de joueurs justement américains qui arrivent à s'imposer dans des grands clubs européens. On parle de Balogun, Giovanni Reina, Christian Pulisic, même Weston McKennie, pareil, à la Juve. Donc c'est une sélection qui progresse. Et puis, j'allais oublier, le sélectionneur, Mauricio Pochettino. Ça peut aider à ce que la sélection progresse encore un peu plus. Donc,
Après, on a eu un Qatar-Suisse 1-1. Alors là, le Qatar qui égalise dans le temps additionnel.
Bah, une des surprises de ce début de mondial, hein, franchement, la Suisse, pareil, hein, qui a croqué la feuille, hein, pour reprendre tes termes, Stéphane. Ouais. Mais non, franchement, la Suisse qui doit gagner, normalement, ce match, tu le gagnes 4-1, 5-1. Après, le Qatar, franchement, ils n'ont pas... Voilà, ils n'ont pas abandonné et ils ont tenu. Hein, sur leur seule occasion, il me semble, hein, après je me souviens plus trop du match, mais je crois que c'est leur seule occasion.
Ouais.
Bah, ils sont cliniques. En plus, un coup de casque, une tête bien dedans. Et non, franchement, c'est premier point pour les Qataris dans un mondial.
Après, pour moi, c'est scandale. La prestation de la Suisse, c'est un scandale.
Ah oui,
c'est que autant le Canada, ils bouffent la feuille, mais tu sens qu'il y a une volonté. Ils veulent y aller, etc. La Suisse, ils mènent 1-0 et tu sens qu'après, ils sont en mode sénateur, ça va le faire. Mais... on va en mettre 2 ou 3 quoi qu'il arrive. En face, il n'y a rien. Et donc là, vraiment, ils perdent le match. Enfin, ils perdent le match, non, mais le match nul, ils le font tout seul, quoi. C'est que.
Pour moi, c'est un match nul au goût de défaite, quoi.
Ah, mais clairement. Ouais. C'est pas mérité dans le football, mais par rapport à ce qu'ils ont proposé, j'ai envie de dire, bien fait, en fait. Vous vous êtes foutu de la gueule du monde pendant une mi-temps entière. Donc là, c'est bien fait. C'est que première mi-temps, ils essayent de mettre un peu de rythme, etc. En deuxième, il en fallait pas beaucoup pour en mettre 2-3 de plus. Et ils le font pas. Ils font pas les efforts pour. Bah écoutez, peut-être que ça leur coûtera la première place et qu'ils sauteront en 16e contre un gros et ce sera mérité.
Ouais, c'est toujours spécial, hein, football, l'équipe suisse. Hein. Toujours une équipe un petit peu.
Qui assume pas sa position de favorite. Ils assument jamais. Ils aiment pas cette position-là.
Toujours un petit peu difficile à jouer.
Alors que leur effectif est pas moins fourni.
Bien sûr.
Quoi.
On dit ça, mais ils peuvent taper l'Espagne. Le Portugal en 8e dans 2 semaines. Hein,
ils rappellent à l'Euro. Hein,
bien sûr.
À l'Euro, ils sortent la France.
Parce qu'ils sont à l'aise contre ce genre d'équipe avaient, en étant outsider.
En 2021, ils avaient posé des problèmes aux Espagnols. Hein, il avait fallu que l'Espagne s'impose au tir au but. Hein, Théo
Pour être parfaitement honnête, j'ai pas vu le match. Je dormais, donc je vous fais entièrement confiance.
D'accord. Mais t'as pas vu les résumés. Faut faire confiance. Pierre, un petit mot sur cette équipe suisse.
Sans grand intérêt, effectivement. Je suis d'accord. La Suisse qui a oublié de jouer. Le Qatar qui n'a pas d'équipe, mais bon, un coup de casque et puis voilà, ça fait un partout.
Voilà, alors, le fameux Brésil-Maroc, un partout. Là, on a eu quand même un niveau
ça
de jeu,
a tenu ses
surtout
promesses.
Sur la première mi-temps.
Ouais,
hein.
Ça a tenu
la deuxième, ça a baissé d'intensité, mais c'est resté quand même correct.
Peut-être,
mais alors, quelle belle démonstration du Maroc pendant une demi-heure. Hein.
Ça a tenu ses promesses, peut-être pas sur le score.
Ça, on va en reparler.
Par contre, j'ai été subjugué du jeu du Maroc, honnêtement.
Alors,
en première mi-temps,
c'était son tueur.
Je me demandais qui était le Brésil, qui était le Maroc, honnêtement. Hein, donc, non, franchement, puis le but de Saïbari sur Alisson,
il est magnifique. Hein.
Magnifique.
Ouais, magnifique.
Et puis, le Brésil qui, grâce à Vinicius, a une action
c'est un
solidaire.
Exploit hein.
Un exploit individuel.
Et ça les remet dans le match.
Oui, bah exactement. Mais pareil, hein, but somptueux aussi. Deux buts, franchement, très beaux, moi, je trouve. Hein, j'ai trouvé. Et on va dire le Brésil qui profite de ses solistes, hein, vraiment. Donc, Vinicius, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence, le Brésil. C'est peut-être ça qui va faire aussi la différence dans leur Coupe du Monde.
Est-ce qu'il faut être inquiet parce que Ancelotti a dit, justement, on ne juge pas une équipe sur un premier match.
Bah, après, le Maroc, c'est pas personne non plus. Hein. Maintenant, le Maroc, il faut commencer à prendre sérieusement cette équipe au sérieux. Hein. C'était peut-être, pour moi, en tout cas, c'était le favori de ce groupe-là, en tout cas, le Maroc. Moi, je pense qu'ils vont finir devant le Brésil.
Ils vont finir devant
Je pense qu'ils vont finir devant le Brésil en groupe. Donc, non, il ne faut pas sous-estimer cette équipe du Maroc.
Alors après, bon, pour revenir sur le match de manière plus ciblée, moi ce que j'ai aimé, c'est au-delà de la domination absolument outrageuse en première période du Maroc Brésil.
Parce que c'était plus équilibré en deuxième. Hein,
c'était plus équilibré en deuxième. Il y a eu moins d'occasions, certes, mais il faut dire aussi ça jouait sous 31 degrés, très haut taux d'humidité, d'après ce que j'ai cru comprendre. Très franchement, moi ce qui m'a le plus choqué, c'est. Il n'y a qu'un seul nom qui ressort, c'est Ayoub Wadi. Le match de patron, tonton qu'il nous fait, franchement, c'est exceptionnel. Il a 18 ans, c'est son premier match officiel, premier match en Coupe du Monde, et il claque un classique monstrueux. On avait l'impression que sur le terrain, il avait 50 sélections de plus. La manière dont il récupérait les ballons, dont il épurait les actions où possiblement le Brésil pouvait se créer des occasions assez rapidement, il récupère, il donne en fait une sorte de confiance et de sérénité au milieu de terrain qui n'a absolument aucun rapport avec son âge. Moi, c'est ça qui m'a vraiment choqué. Une maturité assez folle. Et justement, quand on regarde le Maroc dans les années précédentes, un match comme ça aurait été un match joué par l'émotion. C'est-à-dire que oui, ils vont se donner à fond comme ça, comme on l'a vu en première période, puis après ça va décliner parce que le physique va entrer en jeu. On peut pas tenir une intensité aussi haute aussi longtemps. Mais sur le plan de la gestion des émotions et de la concentration, il y a un moment où ça va flancher. Et ben là, pour le coup, le fait qu'il y ait un joueur comme Ayoub Wadi associé à Nel Elnaoui au milieu de terrain, ben moi j'ai trouvé une équipe qui savait à la fois attaquer, mais aussi qui savait souffrir. Et ça, c'est très important quand on est une équipe qui aspire à aller loin en Coupe du Monde. Surtout quand on s'appelle le Maroc qui a été en demi-finale en 2022.
Ouais. Donc ça reste un client sérieux, Maxence, hein, le Maroc. Hein, parce que c'est toujours dur de se renouveler 4 ans après. Hein.
Client sérieux, ouais. Qui a fait une bonne CAN à domicile, qui commence à connaître toutes ces atmosphères de pression, les stades hauts de la compétition, etc. Mais pour moi, j'attends encore un test pour dire que c'est vraiment un client sérieux à la gagne ou pour aller au bout, parce que pour moi le Brésil c'est une catastrophe.
Attention en fait, à l'Écosse. Oui.
En fait, pour moi le Brésil c'est une catastrophe. C'est que le Maroc, on met en exergue leur première mi-temps en disant que c'est exceptionnel et que c'est très bien, hein. Mais en face ils jouent avec des mecs qui jouent en Timberland, tout, c'est pas possible. Il y avait pas 3 passes, j'ai jamais vu ça.
Ah,
c'est pas le Brésil.
Il a pris un bouillon, pas possible.
Casemiro, la mi-temps de Casemiro. Il y a pas une passe qui arrive. Les mecs qui rataient des contrôles de U12, c'est pas possible. En fait, et quand tu vois le maillot de la Seleção qui est porté par des joueurs comme ça, le Igor Thiago qui est numéro 9 du Brésil, mais c'est pas possible.
Il y a
un problème en fait. ça peut pas être comme
Marquinhos.
Ça. Donc
mais c'est le seul qui surnage justement.
Moi, je vais pas prendre le parti de m'emballer pour le Maroc. J'ai plus cette sur l'inquiétude pour le Brésil en fait. Je suis très inquiet parce que les exploits individuels quand on va jouer des grosses équipes à un certain niveau, ça marchera plus. Et je les ai trouvés friables. Je les ai trouvés pas bons à la relance, pas de sérénité, beaucoup de fautes. D'ailleurs, il sort 2 joueurs à la mi-temps qui ont déjà un jaune et qui sont un peu sur la tangente. Donc, je me suis pas emballé plus que ça.
Les entrants, ils ont quand même apporté justement ce que Paqueta et Casemiro n'ont pas réussi à faire, à savoir conserver
le ballon. Fabinho a été bon.
Fabinho a été bon, Danilo aussi, notamment pour casser les offensives marocaines. Donc, en soi, le banc peut rattraper, entre guillemets, les erreurs.
Ça t'amène pas au bout. Hein.
Mais
ils peuvent peut-être monter en puissance aussi.
Espérons-le.
Il y a eu des Coupes du Monde où c'est arrivé, où les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, notamment l'Espagne en 2010 et l'Argentine en 2022, ont perdu leur premier match. Hein.
C'est vrai.
Espérons-le, parce que là, on donne pas cher de leur peau. Hein. Ouais. Et puis, c'est pas Neymar qui est un cadavre ambulant qui va. Je l'espère, mais ça n'arrivera pas. Ce serait un miracle.
Acheter une paix sociale. En prenant des marques, mais derrière, il se plie de João Pedro.
Pourquoi pas prendre João Pedro
Mais c'est pour s'acheter une paix sociale.
C'est juste
même Hendrick sur le banc, pareil, c'est une énigme aussi.
On va pas le voir beaucoup, hein, Pierre Neymar, hein, je pense.
Ah, je pense qu'on va pas le voir du tout.
Non.
On va le voir dans les tribunes, au bord des terrains, signer des autographes, à vendre des maillots, oui, mais.
C'est vrai que c'était la paix un petit peu sociale qu'on a voulu avec Neymar. Je pense que. Ouais, c'était ça. Bon, ensuite, l'Écosse qui bat Haïti 1-0.
Alors oui, 1-0. Et moi, j'ai été agréablement surpris par Haïti. Franchement, Haïti a fait une très bonne prestation contre l'Écosse. L'Écosse qui est quand même une équipe bien fournie. Je pense à McTominay, à McGinn, par exemple. Et franchement, non, Haïti, porté par notamment Isidore et Casimir qui joue à Auxerre. Non, franchement, Haïti pouvait aller chercher un match nul, hein. Au moins un match nul en tout cas. Bon, après l'Écosse, je trouvais que ils ont bien poussé au début, mais après leur but, ça a été plutôt poussif. Ça a eu du mal.
Ouais.
Donc voilà.
Ouais,
mais Haïti, en tout cas, je suis content. Et peut-être, bon, après, ça va être compliqué les autres matchs, hein. Mais en tout cas. Là, j'ai été surpris de cette équipe.
Deuxième Coupe du Monde de l'histoire pour Haïti, c'était en 1974, hein, Pierre, qu'ils avaient été en première Coupe du Monde à Haïti. Stéphane ?
Ben, moi, personnellement, j'ai été extrêmement frustré, en fait. Parce que j'ai suivi le match, mais pas vraiment avec un œil de journaliste, je vais le reconnaître. Mais,
pourquoi ?
Bah, parce que j'ai des origines haïtiennes.
Ah, bah oui, c'est vrai.
Donc
là, c'est plus le journaliste qui parle.
Mais bon, pour être plus sérieux, non, j'ai quand même suivi le match. Et effectivement, c'était très frustrant de voir Haïti qui a fait mieux que regarder l'Écosse dans les yeux. Haïti a dominé à plusieurs reprises, a eu des occasions à plusieurs reprises, et c'est sur un but contré par deux joueurs et dévié, un tir qui est même pas cadré, qui finit dans la cage et qui est dévié par son défenseur dans son propre but en prenant le gardien à contre-pied. Vraiment, c'est pour dire à quel point l'Écosse s'en sort par le trou de la serrure, quoi. Et sur le contenu, moi, j'ai vraiment aimé J'ai vraiment aimé justement ce que Haïti a proposé, parce qu'ils ont été loin d'être ridicules, loin d'être petits poussets. Et je pense même qu'ils peuvent, bon, je vais pas dire sortir de la poule, mais au moins marquer un à deux buts, histoire de faire rêver, le pays. Je ne les vois pas sortir, avec ce qu'ils ont proposé face à l'Écosse, je ne les vois pas sortir sans marquer un but.
D'accord. Théo, t'en penses quoi, toi ?
On peut l'espérer pour eux, hein, parce que faut être aussi, ça va être invraisemblable s'ils sortent de la poule. On a quand même en face, du coup, là, c'est Brésil et Maroc. Ça va devenir très compliqué. Ouais. Et, mais potentiellement, l'Écosse a peut-être un coup à jouer, hein.
Enfin, l'Écosse, c'est l'arbitre de la poule. Hein.
C'est
si
ça, quoi.
L'Écosse arrive à tenir le Maroc en échec. Le
groupe est moins fermé qu'on le pense, j'ai l'impression tout de même.
Ouais, après, l'Écosse, ça reste un style quand même britannique. Hein. Pas très spectaculaire. Hein. Ouais.
C'est très faible.
Ouais.
Après, maintenant, avec une victoire, t'es quasiment qualifié.
C'est ça, quoi. Donc,
Bien sûr.
De toute façon.
Maxence
Oui, moi, Haïti, je m'attendais pas à grand chose, pour être honnête. Je savais pas où je mettais les pieds. Est-ce que c'était du côté de Curaçao? Est-ce que c'était à quel niveau, etc. Et pas du tout. Non, mais vraiment pas du tout. Et ils doivent égaliser sur la fin pour moi avec la tête de Franzi Piero qui passe pas loin. Et moi, j'ai un peu vibré devant ce match. Je me suis posé, à vrai dire, sans grandes ambitions à la base, juste pour regarder. Et je me suis pris au jeu parce que l'équipe d'Haïti, elle avait des occasions, ça attaquait, et ils ont fait plus que jeu égal pour moi, donc victoire tirée par les cheveux pour l'Écosse.
Voilà, alors pendant qu'on est en train donc de faire l'émission, il y a toujours 0-0, Théo.
Ouais, 0-0, ouais. Là c'est la pause fraîcheur.
Alors
là,
justement, je voulais en parler, c'est le fameux Colin Breck.
Ça on n'en peut plus, hein.
Ouais,
ça
suffit, c'est un cauchemar. C'est l'écartant du basketball, ça m'énerve.
Ouais, alors, j'espère que ça va pas perdurer.
Là on a ouvert la boîte de Pandore, là, c'est parti.
On veut pas
On veut pas que
le soccer
j'ai
soit
bien peur
foutu,
que ça le devienne et on voit que ça change même la dynamique des matchs parce que le Brésil-Maroc pendant 25 minutes ils sont mal et on voit que Ancelotti il en profite pendant les 3 minutes pour replacer tout le monde, Vinicius machin, et ils repartent beaucoup mieux et ils égalisent juste après, donc en fait ça change toute la dynamique et c'est plus le même sport.
Je vais même abuser un tout petit peu, mais Allemagne-Curaçao, il y a un partout, Curaçao vient de marquer, Colin Breck. Bon, ça n'aurait sans doute pas changé tout, mais mine de rien, dans la dynamique sur l'instant T, ça brise totalement les jambes des joueurs, quoi.
Et on imagine sur les gros matchs, en quart de finale ou en demi, tu prends le dessus sur un adversaire
à la 60e minute,
sur un France-Espagne, un France-Argentine, et on te coupe tout en disant attends, on la refait.
70e minute, entrée de Lamine Yamal. Yamal rentre 0-0 encore pour l'Espagne qui va décidément bien embêter face au Cap-Vert.
Et Yamal qui rentre. Pierre, donc le Colin Breck là.
Colin Breck, c'est quelque chose qui va s'installer durablement.
Ah, j'espère que non.
Il y avait 5 remplaçants pendant le Covid. Ils ne sont pas partis.
Oui, c'est vrai.
Ouais,
c'est
toujours 5. Hein.
Parce que là.
En 2020, c'était 3. Mais ça va être effectivement en 3 cartons.
Et puis là, c'est le business. Hein, l'UEFA n'est pas plus bête que la FIFA. Ils vont faire la même chose.
Bien sûr, puis les chaînes qui retransmettent, c'est de la publicité en plus.
Moi, c'est surtout ce côté très hypocrite du nom de pause fraîcheur qui m'agace le plus.
Ah, oui.
Officiellement, c'était censé permettre aux deux équipes de prendre une pause, comme dit son nom, mais de se restaurer, de boire de l'eau parce qu'il fait 30-35 degrés, ou alors parce qu'on est à un taux d'humidité quasiment à 100%, voire les deux. Mais là, en vrai, j'ai vu des pauses fraîcheurs, il faisait 18 degrés, il faisait 20 degrés,
ça n'a aucun sens.
Puis ça a toujours existé.
Et ça a toujours existé.
En Ligue 1, dans les fins de championnat, quand il fait 30-32 degrés, il y a une pause à la 30e minute.
Mais
on ne met pas une pub au hasard comme ça. Enfin, c'est juste pour faire plaisir aux annonceurs au détriment des supporters.
Bah, d'ailleurs, sur le premier match, justement, la deuxième pause fraîcheur à 15-20 minutes de la fin du match, je crois que c'était Mexique-Afrique du Sud, le match il a repris.
Oui, parce que la Fox n'avait pas rendu l'antenne avec les pubs encore.
Tout à fait.
Donc, l'arbitre a dû attendre.
Et attendez qu'on commence à avoir les premières blessures liées au cooling break. Le mec qui est chaud, qui s'arrête 3-4 minutes, qui reprend sur un sprint et qui claque. Si ça tombe sur Mbappé en quart de finale de Coupe du Monde, à mon avis, ça va commencer à faire parler.
Marius, je suppose que toi, c'est pareil, t'es comme nous, t'es pas pour le.
Exactement, même avis.
C'est pas pour que le Colin Breck perdure.
Parce que ça tue les dynamiques des équipes. Hein, donc non, je suis totalement. J'espère que ça va pas durer dans le temps. Ce serait dommage pour le foot. Hein,
Alors ensuite, on a eu un Australie-Turquie. 2-0 pour l'Australie.
Australie-Turquie, je n'ai pas regardé le match.
Non,
c'était à 6h du matin.
Non, t'as raté.
Vous en pensez quoi quand même? Ça vous surprend cette
victoire? C'est la plus grosse
surprise. Oui, par contre, oui.
Moi, j'aurais joué les Turcs, sincèrement. Si j'avais fait un prono, sincèrement, j'aurais joué la Turquie.
Non, la Turquie, c'est une grosse équipe quand même, la Turquie. Donc, non. Puis apparemment, j'ai regardé les débriefs et tout. C'est une grosse domination des Turcs quand même.
Complètement.
Sur deux occasions, ils ont marqué. Après, ils ont été réalistes et ça le fout. 3 points maintenant.
Et après, les Australiens, ils sont souvent sous-estimés en début de compétition. Mais c'est jamais facile à jouer parce que c'est une équipe qui se balade pas en Océanie parce qu'ils doivent faire le jeu, etc. Mais ils aiment bien ce format où ils sont un peu outsiders. On voit que l'équipe de France a souvent du mal à s'en débarrasser.
On a eu un peu de mal.
En 2018, en 2022, on a galéré. En 2018, le premier match, on galère. En 2022, ils se font sortir, il me semble, par l'Argentine après prolongation en 8e. Donc ils y sont pas du tout. Enfin, c'est pas un cadeau à jouer l'Australie avec un bloc bas, des joueurs physiques qui vont vite devant.
Pour un pays qui est pas un pays
de foot en plus. Mais oui, pas évident. Et les Turcs sont tombés dans le piège, les deux pieds dedans. Donc
c'est ça que j'allais dire, c'est que clairement les Turcs ils sont tombés dans le piège. C'est-à-dire que tout le monde les voyait s'imposer parce que ils ont un effectif quand même assez dingue. Je pense à Arda Güler en premier, mais il y a pas que
Kenan Yildiz qui était sur le banc.
Ça déjà c'est improbable, je suis désolé, mais même je pense tout le monde pensait à ce que la Turquie s'impose, mais en fait oui ils sont tombés dans un traquenard, mais faut voir la tronche des buts qu'ils ont encaissés aussi, c'est des buts où tu te dis mais c'est des buts d'inattention quoi.
Oui, bah, j'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper, nos amis turcs, mais bon, ils peuvent quand même chercher un 8e ou un 16e de finale quand même.
Mais c'est pas la sortie de la compète.
Parce que c'est quoi le reste de la poule? Turquie, Australie.
C'est quoi le reste de la poule justement?
Oui, Turquie, Australie, États-Unis, Paraguay.
Les États-Unis, à mon avis, pour les taper, il va falloir se lever tôt. Et le Paraguay, ils vont quand même se réveiller en manque. Oui, je pense aussi, mais.
Il faut se les coltiner les États-Unis. Mais c'est pas encore un accident. On n'est pas au niveau de la Tunisie, par exemple.
Non. D'ailleurs, ça a valu, mais on en parlera tout à l'heure. Je vous ai donné l'info tout à l'heure. Ça a valu la peau de l'entraîneur en pleine Coupe du Monde. Bon, alors, Allemagne, Curaçao, 7-1.
Allemagne, Curaçao, que dire? Franchement, au début, c'était poussif. L'Allemagne, égalisation exceptionnelle.
Très beau but.
J'étais comme un fou et tout. J'étais en mode, mais non, mais là, il va se passer quelque chose de dingue. Et justement, on en parlait, cooling break. Et après, effondrement. Deuxième mi-temps, plus rien.
Là, on voyait, ça allait trop vite pour eux.
Mais en tout cas, moi, j'ai vu une équipe qui voulait faire le jeu. Voulait jouer bloc bas, essayer de gratter des trucs. Ils ont essayé de faire le jeu. Ça a marché pendant 25 minutes. Après, malheureusement, il y a aussi ce truc, ils n'ont pas la qualité d'effectif pour tenir 90 minutes contre l'Allemagne. Donc voilà, c'était...
Justement, est-ce qu'une Coupe du Monde à 48, ça se justifie? Parce que... Parce que bientôt on va voir les îles Fairway, Saint-Marin.
C'est pas élitiste en fait. Fait une Coupe du Monde à 180, on emmène tout le monde.
Il y a plus
les îles Vierges britanniques, et puis ça dure 6 mois et on voit ce que ça donne. Mais
Une Coupe du Monde, ça se mérite. C'est l'épreuve tellement.
Après, c'est super pour eux, c'est beau, magnifique, Curaçao. Mais Curaçao, c'est la population de Vitry-sur-Seine, quoi. Donc en fait, c'est pas possible. Et ça n'a aucun intérêt. Enfin, là, ils en ont pris 7, c'est bien, ça leur fait un beau souvenir. Ils vont en prendre 3 et 4, parce qu'en plus, c'est Côte d'Ivoire-Équateur le groupe. Donc, autant dire qu'ils vont prendre des tartes tous les matchs. Et au final, ça prépare personne. Enfin, l'Allemagne n'a aucune. Il n'a rien à tirer de ce match-là. Curaçao non plus. Donc, je vois pas qui est gagnant, mis à part la FIFA, qui récolte des votes. Parce que Curaçao votera pour Infantino à la prochaine élection.
Stéphane, toi, t'es pas non plus pour les 48. Parce
en soi,
ça doit se mériter une Coupe du Monde.
En soi, je suis d'accord. Ça doit se mériter une Coupe du Monde. Mais moi, je dirais même pas que je suis contre la Coupe du Monde à 48 pour ces raisons. Je dirais plutôt que je suis contre la surenchère de matchs saison après saison. Non, parce que là, on est quand même sur une Coupe du Monde à 48 équipes. La saison dernière, on a une Coupe du Monde des clubs. Chaque saison, une Ligue des Champions encore plus longue, plus les championnats domestiques, plus les coupes domestiques. On s'en sort plus. On commence à rentrer dans une ère où il y a une boulimie du football qui est en train de s'installer. Et rien que là, le symbole, c'est quoi? C'est une Coupe du Monde à 48 équipes où il y a 12 poules de 4 équipes. C'est ni fait ni à faire. C'est absurde.
Et on va casser le jouet parce qu'on voit que là on arrive sur une Coupe du Monde où le meilleur joueur du monde pour moi ou un des meilleurs qui est Lamine Yamal, il est blessé, il commence pas le premier match, il joue pas. Neymar qui est quand même une attraction du football, il joue pas non plus. Donc en fait ils vont être perdants et le jouet va être cassé. Et encore là ils se sortent pas trop mal, mais tu pourrais très bien demain imaginer une Coupe du Monde, t'as pas Mbappé, t'as pas Olise, pas Yamal, et là tes spots pub ils se vendent un peu moins parce que c'est un peu moins intéressant et voilà, c'est un cercle vicieux. Donc
tout à fait. Et je connais bien ça pour parler de ça dans d'autres sports, notamment le tennis, où on est dans une surenchère de matchs dans tous les sens. Et rien que là, tu vois, tu parlais de jouet qui est cassé, mais le jouet est en train de réellement se casser.
T'as plus Alcaraz sur les grands chelems parce qu'il est blessé, donc il aura trois par an.
Et disparu, etc. Et on est vraiment dans ça, en fait. C'est surtout pour cette raison que je suis contre la Coupe du Monde à 48 clubs.
Bah oui, t'en as parlé la semaine dernière. On a parlé du tennis avec tous ces cas de forfaits et de grands qui ont été battus dès les premiers tours. C'est une explication.
Et moi, je pense aux pays, les pays qui organisent aussi les Coupes du Monde. Moi, je trouve ça honteux de donner ça au Qatar, aux États-Unis, qui n'est pas un pays de foot.
C'est ceux qui ont de l'argent.
Bah oui, je veux dire, normalement, dans 4 ans, ça devrait
être... Ça sera mieux, pays de football, le Portugal, l'Espagne et le Maroc.
Mais voilà, enfin, ils se cachent même plus, quoi.
Mais après, plus t'as d'équipes, pardon.
Non, je sais aussi avec des matchs en Amérique du Sud aussi.
Ah oui, c'est vrai qu'il y aura, c'est vrai, j'oubliais, il y a quand même 3-4 matchs. 3-4 matchs, je crois. Ouais, 3-4 matchs. Oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Puis c'est aussi, plus il y a d'équipes, plus c'est dur à organiser, en fait. Ouais, plus les pays un peu plus modestes peuvent plus se permettre. Une Coupe du Monde en Uruguay, une Coupe du Monde au Brésil, c'est plus possible, en fait, avec 62 équipes. Demande des infrastructures de dingue, un système de transport, des supporters. Donc c'est trop compliqué.
Et à quoi bon avoir 48 équipes si les places sont tellement chères que les supporters ne peuvent même pas venir ou ne sont pas autorisés à venir? Et ce sera la même chose là. Ce sera la même chose la prochaine fois, parce que organiser sur 3 pays différents, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser pour aller voir un premier match potentiellement au Portugal, puis ensuite c'est au Maroc, après c'est en Espagne. Enfin, c'est invraisemblable.
Et puis là, c'est pas des. Bon, en plus, les US, c'est un grand pays.
C'est ça, on fait des voyages.
Non, mais si t'as pas 15 000 euros de côté, ça sert à rien d'aller là-bas.
Et encore,
je suis gentil.
Bon, Pays-Bas, Japon, 2-2.
Ah là, Pays-Bas-Japon, moi j'ai été content de ce match. Hein. Les deux équipes, j'aime beaucoup le jeu proposé. Avec les Pays-Bas, j'en attends pas beaucoup dans cette Coupe du Monde. Moi, personnellement, je trouve.
Ouais, je sais pas.
Voilà, je trouve ça pas.
C'est une équipe qui vit sur son passé, je trouve. Mais enfin, bon.
Et première mi-temps, il n'y a rien eu à se mettre sous la dent, honnêtement. Ouais. Après, quand Van Dijk ouvre le score de la tête, là, c'est parti en freestyle, j'ai envie de dire. Égalisation du Japon, les Pays-Bas qui remettent un but derrière Somerville. Frappe exceptionnelle, puis but de la tête des Japonais sur coup de pied arrêté à la 90e.
Face à Van Dijk. Hein.
Donc, non, c'est fou. En tout cas, ce match, moi, était très plaisant à suivre.
Ouais, pareil, la même idée.
J'ai trouvé surtout les Pays-Bas très, très, très décevants.
Ouais, mais bon, moi, ça m'étonne pas. Hein.
Parce que quand ils ont voulu accélérer et faire mal au Japon, ils ont pu vraiment garder le ballon autant qu'ils voulaient. À tel point que même quand ils ont été ramenés au score et égalisés par le Japon, ils ont marqué quasiment dans la foulée. Et ensuite. Ils n'ont plus gardé la balle, ils n'ont plus une seule phase de possession et j'ai pas trouvé que le Japon était si transcendant que ça, même si ça joue bien. Ils auraient pu garder la balle un peu plus, ils faisaient que balancer des longs ballons et les perdre directement sur Memphis Depay et aller faire jouer Memphis Depay de la tête, c'est n'importe quoi. Et à tel point qu'ils prennent un but sur coup de pied arrêté, alors que les joueurs japonais sont tous, comparés aux Néerlandais, c'est tous des nains et ils prennent un but de la tête, c'est dingue.
Ouais, maintenant.
Non, pour moi, match à deux visages parce que la première mi-temps, elle est très ennuyeuse. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de mon dimanche soir là? Je suis vraiment devant ça. Et la deuxième, c'était popcorn, c'est parti dans tous les sens, donc c'était hyper sympa à suivre. Vraiment, à deux visages, mais heureusement que la deuxième mi-temps, je suis resté devant la télé quand même, sinon je me serais couché un peu énervé.
4 buts en plus, bon, ça a été.
Ce qui était étonnant, c'est que les Japonais se sont mis à jouer à chaque fois qu'ils ont été menés.
Oui, en plus. Et à 2-2, ils arrêtent totalement. Oui, ils restent 5-6 minutes à jouer et ils se mettent à balancer les ballons, à conserver le match nul. Et c'est aussi ça le problème du format 48, on n'en a pas parlé, c'est qu'avec les meilleurs troisièmes, ils savent qu'en faisant match nul contre un gros, c'est déjà quasi fait en fait.
T'assures quoi.
Donc le Japon, ils n'ont aucun intérêt à aller chercher la victoire. Ils savent qu'ils vont taper un petit et derrière leur nul contre les Pays-Bas et puis ils sont en 16e.
Ah ouais, c'est ça. Alors après, bon, en fonction de ton classement, quand même, ton parcours peut être un petit peu différent quand même.
Oui, on peut pas savoir.
Oui, mais c'est tellement dur d'anticiper que.
Côte d'Ivoire qui bat l'Équateur 1-0.
Match à deux visages aussi. Parce que première mi-temps vraiment dominé par l'Équateur. Je crois qu'il y a deux barres,
trois fois ils ont tiré sur les montants.
Donc vraiment. Et deuxième mi-temps, par contre, là, la Côte d'Ivoire a vraiment mis le turbo. Hein. Ils ont mis une barre aussi. Et après le rentrant Amad Diallo qui vient claquer son but à la 90e. Hein, donc. Moi je suis content pour les éléphants. Moi ça me fait plaisir. J'aime beaucoup cette équipe de la Côte d'Ivoire.
Hey, Allemagne-Côte d'Ivoire, ça va être fabuleux. Hein.
Ouais, ça va être pas mal. En plus, la Côte d'Ivoire qui avait battu la France en match de préparation.
Oui.
Franchement, la Côte d'Ivoire, ça peut être une des équipes africaines qui, avec le Maroc, qui peut aller très très loin. Hein. Franchement,
c'est une belle équipe.
C'est pareil, un match un peu compliqué. J'ai failli m'endormir. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Cette première mi-temps, il va rien se passer. Et après, bon, bah, agréablement surpris jusqu'au but à la 90e, ce qui fait un petit peu aussi parfois la magie des Coupes du Monde, parce que là, t'as toute une nation qui se libère d'un coup. On a l'impression que c'est un but libérateur. C'est assez dingue. Et... une équipe très plaisante à voir. Même l'Équateur aussi. Hein. Ouais, on les voit assez rarement aussi.
Ils peuvent
nous,
avoir des grès. Hein.
Ouais, complètement. Ouais. Hein, mais parce qu'il y a eu pas mal de montants. Mais c'est des équipes qu'on voit, entre guillemets, assez rarement. Parce que sinon, il faut regarder les matchs sud-américains directement. Mais c'est une équipe assez, assez plaisante à voir jouer quand même.
Ouais. Et puis, il faut dire aussi une chose. C'est une excellente performance pour la Côte d'Ivoire que d'avoir battu l'Équateur. L'Équateur, en phase de qualification de la Coupe du Monde, c'est 5 buts encaissés seulement.
C'est verrouillé.
Et c'est
deuxième de la conférence Sud-Am.
De la conférence Sud-Am. Et on parle d'une équipe qui a joué avec le Brésil, avec l'Argentine, la Colombie, bref, des équipes qui savent aussi manier le ballon. Donc, vraiment, avoir réussi à faire péter le verrou et à y croire jusqu'au bout, c'est une très, très belle performance. Et d'ailleurs, juste comme ça, hein, Yann Diomandé, match exceptionnel.
Je voulais en parler. C'est extraordinaire.
Franchement, l'équipe qui va le chercher là, au Mercato Estival, va falloir sortir le chéquier et deux, va falloir s'installer parce que ça va être un festival.
Ouais. En tout cas, on a hâte. Hein. Allemagne-Côte d'Ivoire, ça va être bien. Hein.
Oh que oui.
Et même Allemagne-Équateur, ça va être sympa, je pense. Tous les matchs de ce groupe-là, bon, à part ceux qui concernent Curaçao, mais sinon, les autres matchs sont intéressants.
Alors, justement, une des explications qui est plus d'équipe en Coupe du Monde, c'est le fait qu'il fallait donner plus d'équipes dans des continents comme les Africains.
Certes.
C'est un argument qui tient.
Bah, c'est un argument qui se tient, parce que en plus, dire « ouais, on va donner un petit peu plus de place au continent africain pour derrière ne pas laisser entrer leurs propres supporters », moi, déjà, rien que ça, je trouve c'est une hypocrisie absolue. Et puis, il faut dire aussi une chose, moi, je suis pas dans l'idée comme tu l'as dit, Philippe, je suis pas dans l'idée de dire « tiens, on va donner… » Allez, on va donner un billet supplémentaire, une petite place supplémentaire. Non, une Coupe du Monde, ça se mérite.
Oui, non, mais c'était l'argument, leur argument.
Ça se mérite.
Voilà. C'est ce qu'on a dit. Ouais.
Après, pour moi, le problème, c'était surtout que sur 32, il n'y avait pas assez d'équipes africaines, en fait.
C'est ça.
Il y avait
entre
4 et 5, et c'était trop peu. Donc, il aurait juste fallu réadapter
peut-être
un petit peu, les faire passer à 7-8 et en enlever une ou deux de l'Europe, parce que tu as toujours des équipes, l'Autriche, la Serbie, qui viennent, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, en fait, pour moi, il fallait juste rééquilibrer à l'intérieur de ce format 32, parce que 5 ou 4-5, c'était trop peu quand même, faut pas se mentir. Mais c'est une mauvaise excuse.
Faut pas se leurrer, hein. C'est juste pour avoir plus de matchs et donc.
Oui, bien sûr.
Et donc plus de voix aux élections.
C'est juste ça.
Les droits télé, tout ça.
Pour redonner toutes les excuses qu'ils veulent, ça reviendra à ça à la fin.
Toujours à l'argent, quoi.
Voilà.
Toujours.
Allez, le dernier match de ces 4-5 jours, c'était la Suède qui a écrasé la Tunisie 5-1.
Et la Suède, moi, je ne m'attendais pas à ce niveau jeu-là. Hein. Ils ont fini dernier des matchs de qualification. Hein. Ils ont été sauvés in extremis. Mais je ne m'attendais pas à ce niveau jeu-là, honnêtement. Mm-hmm. 5-1, hein, démonstration totale. Première période, il y a peut-être eu un moment... la Tunisie qui a réussi à regarder dans les yeux la Suède parce qu'il y a eu une égalisation 1-1. Puis après, en revanche, par contre, après, là, c'est parti en freestyle encore une fois. Hein, Gyökeres, gros match. Isaac, gros match. Franchement, les offensives de la Suède, très bon match. Et la Suède, pourquoi pas aller chercher quelque chose dans cette Coupe du Monde.
Tu crois
Franchement, après, c'est un premier match. Voilà, premier match. Ouais. Mais pourquoi pas, hein. En tout cas, je sais pas pour tout le monde, mais la Suède, on n'en entendait pas beaucoup déjà de base. Là, peut-être, ils peuvent aller chercher quelque chose.
Ah, c'est surtout la Tunisie qui est très faible. Hein.
La vache, il manque de tout dans cette équipe. Il manque
rien,
de tout, il manque
un gardien.
Il manque une défense avec une tête de gondole qui fait vraiment qui tient la baraque. Il manque un milieu de terrain, il manque une attaque. Il manque de tout dans cette équipe. Il a manqué de tout. Ouais. Je suis désolé, moi, voir pour le coup, là, le match de la Suède contre la Tunisie, pour moi, c'est un succès en trompe-l'œil. Et Allemagne, Curaçao, il n'y a absolument rien à en tirer comme enseignement. Autant Suède-Tunisie, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Hein.
Parce que derrière, c'est Pays-Bas et Japon, tu peux très bien faire 0-0. Hein,
Tout à fait. Et puis, il faut dire aussi une chose concernant la Tunisie. Ils sont dans la lignée de ce qu'ils ont fait à la CAN où par miracle ils sont arrivés jusqu'à, je crois, c'est quoi, 8e de finale.
C'est 8e, ils sortent contre le Mali,
au tir au but. Le Mali qui n'a pas gagné un seul match avant de se faire éliminer en demi.
Et le Mali qui était à 10, il me semble,
le Mali qui était à 10, Tunisie qui archi-dominait ce match sans pouvoir marquer. Ils sont sur la même continuité, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, Sabri Lamouchi qui c'est bien, il a fait un match et puis s'en va.
C'est Wabi Kazri qui va reprendre la suite, un mec qui a jamais fait ancien match sur le banc, qui était joueur il y a encore 3 ans.
C'est en pleine Coupe du Monde en plus. En pleine Coupe du Monde. Oh là là.
C'est catastrophique.
Alors Théo, il reste 3-4 minutes.
Ça devient très inquiétant pour l'Espagne quand même. Toujours 0-0 face au Cap-Vert. Là, il y a eu une grosse occasion quand même pour l'Espagne, mais ça ne veut pas rentrer. Il y a toujours un joueur cap-verdien devant. Les arrêts du gardien, ça devient limite.
Le gardien fait un match exceptionnel. Je crois qu'il doit être à 8 ou 9 arrêts.
Et on va avoir le premier 0-0 de la Coupe du Monde.
Alors la première grosse surprise, pratiquement. Énorme.
Et mes paris là-dedans.
C'est pas encore fini. Il y a 38ème minute tout. De jeu. C'est pas encore.
Et puis le problème, c'est surtout que ces matchs, enfin ces exploits ou ces matchs nuls, ça vaut rien. C'est-à-dire mais que l'Espagne est pas en danger du tout. Non, ils peuvent même perdre le prochain encore et ils passeront quand même. Donc quel intérêt.
Bon, alors avant de parler des autres matchs de ce soir, tu nous donnes un petit journal des sports parce qu'il y a quand
Allez, allons-y. Merci Philippe.
Infos sportives, hein.
Allez, on ouvre ce journal des sports par une triste nouvelle, la disparition du skipper Charlie Dalla à 42 ans. Le navigateur avait remporté les deux dernières éditions du Vendée Globe. Sport automobile avec la 94e édition du 24 heures du Mans, remportée par la Toyota numéro 7 au but du suspense. L'écurie japonaise n'avait plus remporté la course depuis 2022 et succède à Ferrari, vainqueur l'année dernière. Ferrari, justement, crée la surprise à Barcelone en F1. Lewis Hamilton renoue avec la victoire en Catalogne devant George Russell et Lando Norris. Kimi Antonelli reste tout de même leader au classement général malgré un abandon en fin de course. Cyclisme maintenant, victoire du Mexicain Isaac Del Toro sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes à seulement 22 ans. Luke Tuckwell termine à la seconde place, à noter l'abandon de Paul Sexas à 3 semaines du Tour de France seulement. Et petit mot de sport de combat en MMA cette nuit, Cyril Gann qui s'est imposé en deux rounds face à Alex Pereira lors du main event à la Maison Blanche. Le Français remporte par la même occasion la ceinture intérimaire des lourds UFC.
Alors, rugby. Je te coupe parce que toi, comme quoi pendant cette Coupe du Monde, il y avait la fin du MMA.
Ah, il se passe plein de trucs.
La fin de la NBA, je veux dire, et le MMA. Donc,
il se passe plein de trucs.
Il y a de la concurrence. Hein.
Allez, on part au rugby en barrage de top 14. Victoire du Racing 92-33-31 face à Pau. Le Racing affrontera en demi-finale Toulouse vendredi. L'autre barrage est largement remporté par le Stade français 45-5 contre La Rochelle avant d'aller défier Montpellier en demi-samedi. Toujours en rugby, Perpignan assure son maintien dans l'élite après sa victoire 47-24 sur Provence Rugby. Et en basket, Paris remporte le premier match de la finale de championnat engagé face à Monaco. Succès 95-91 à domicile. Seconde manche ce mercredi à 20h30. Et de l'autre côté de l'Atlantique, toujours en basket, les New York Knicks, sacrés champions de NBA, après leur victoire 94-90 dans le match 5 face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. En handball, Barcelone décroche sa 13e Ligue des Champions après sa victoire 37-34 face à Berlin. Et on termine avec du football et le dernier match qualificatif des Bleus pour la Coupe du Monde au Brésil en 2027. L'équipe de France féminine s'impose face à l'Irlande 1-0 à Grenoble et se qualifie pour son 5e mondial de suite.
Voilà, et pendant que donc, tu donnais les infos sportives hors mondial, on est allé dans le temps additionnel. Et toujours, messieurs, 0-0.
Énorme occasion pour le Cap-Vert. Une tête sur corner. Heureusement, elle est sur le heureusement pour l'Espagne, elle est sur le gardien, mais on a eu peur là pour l'espagne.
Ouais, d'accord, très bien. Ok, donc
l'Espagne toujours à l'attaque, qui cherche désespérément une solution pour se tirer de ce vilain piège tendu.
C'est un sacré bourbier ce match parce que ils ont les occasions, mais il y a toujours un pied.
Là, ça va être la première grosse vraiment.
Il y a toujours un surprise. Un pied, une tête, un bras, un buste pour contrer le ballon. Et je pense que ça va se terminer en 0-0.
Et c'est vrai qu'on en parlait avant le match. Daniel nous aidait. Attention, Cap-Vert, c'est une belle équipe.
Bien sûr. Cap-Vert, pour ceux qui se souviennent, allez, on va repartir un tout petit peu en arrière, mais ceux qui se souviennent notamment de Ryan Mendes, qui jouait notamment, qui s'est fait connaître au Havre et qui a joué au LOSC, un excellent joueur de rotation et qui est le capitaine de l'équipe capverdienne. Il est encore là dans cette Coupe du Monde et il mène cette sélection face à l'Espagne, tenant du titre à l'Euro. Et franchement, le taf est particulièrement bien fait ce soir parce qu'ils se donnent tous corps et âme pour empêcher toutes les offensives espagnoles. Ouais.
Bon, alors après donc, ce Espagne, donc Cap-Vert, il y aura Belgique-Égypte. Vous en attendez quoi de ce match?
Attention à l'Égypte, mais normalement la Belgique devrait aller remporter ce premier match. Moi, Belgique, c'est toujours une équipe qui va...
Un peu décevant ces dernières années quand même.
Évidemment, il y a eu la génération dorée en 2018. Après, il y a eu le renouvellement d'effectifs a été difficile, même si là, il y a quand même des jeunes. Moi, je pense à Doku, par exemple. Doku qui est quand même un gros joueur à City. Donc non, la Belgique, ça passe normalement, ça passe les poules. Moi, je pense une victoire et même un prono. Allez, je dis 2-0.
2-0.
Voilà.
Ouais. Maxence et puis oui, Théo. Oui,
totalement d'accord. Ouais. La Belgique a eu du mal à gérer son statut de favori pendant quelques années. Ouais, et là, justement, on les attend un peu moins. Ouais. Donc, ils sont un peu plus dans l'ombre. Et là, ils peuvent être dangereux,
bien,
je pense. Parce que c'est
situation.
Ça. Ouais. Ils ont le mix entre l'expérience d'un Courtois, d'un De Bruyne, d'un Lukaku. Et à côté, la jeunesse de Kettler, d'Oku. Donc, moi, j'y crois à cette équipe, ou du moins sur un petit parcours. Et l'Égypte, je ne crois pas du tout à cette équipe-là. Ouais. La CAN, elle m'a fait encore une impression dégueulasse. Ça reste à 10,5 derrière. Donc, ça va être le cas ce soir encore. Ça là il est cramé à mon sens, donc non, je pense que victoire belge aussi, 2 ou 3-0 pareil.
Et ouf, carton jaune pour Pedri, hein, Théo.
Ouais, sur un semblant de contre-attaque du Cap-Vert, Pedri fait la faute alors que la balle allait sans doute être récupérée, une faute un peu inutile. Troisième minute dans le temps additionnel, il en reste plus que deux. L'Espagne va sans doute pas s'en tirer avec la victoire.
0-0. Belgique et Égypte, toi, ça comment
La Belgique, assez facilement, je suis assez d'accord avec les analyses qui ont été dites. Pour moi, l'Égypte n'est pas une équipe qui va aller loin. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, ils n'ont pas vraiment d'armes. Donc la Belgique devrait s'en tirer assez facilement.
Ouais, Pierre ?
Match a priori sans intérêt.
Ah bon, sans intérêt ?
Il est dur, très dur.
La Belgique, ils ont gagné quelques matchs de préparation, mais ça reste la Belgique. Et effectivement, l'Égypte, c'est très décevant. Ça fait partie des matchs...
La frappe ?
Des matchs que j'ai regardé quand même. Ça, c'est par vite.
Alors, ensuite, à minuit, il y aura Arabie Saoudite-Uruguay. Vous allez enchaîner.
Si l'avion uruguayen est arrivé. Il est arrivé, je pense.
Et Bielsa a dit que ça n'avait pas trop gêné. Voilà.
Là, pour le coup, le seul intérêt du match, c'est de voir quelle mayonnaise, quelle tambouille est-ce que Marcelo Bielsa va mettre en place avec l'équipe de la Céleste face à Arabie Saoudite.
Il n'y a pas sa petite chaise toujours.
La glacière.
Après l'Arabie Saoudite. Ça a gagné leur premier match en Coupe du Monde 2022 contre l'Argentine. Pourquoi pas aller chercher cette équipe d'Uruguay, hein. On ne sait jamais.
Et puis le dernier match de cette nuit, donc ça sera Iran-Nouvelle-Zélande.
Bon, là par contre,
peut-être faire un passe aussi. 3h du matin.
Ça va être dur. Je sais pas si je vais être devant le match, mais bon, après, c'est les genres de matchs qui intéressent pas grand monde, malheureusement. Bon, après, normalement, moi je pense que l'Iran devrait gagner. Après, on sait pas. Moi je pense en tout cas l'Iran va gagner ce match.
Voilà, là on est en train de vivre vraiment les toutes dernières secondes de ce qui va être peut-être la première grosse surprise donc de ce début de mondial.
Et le premier 0-0 aussi.
Et le premier 0-0.
Et ben voilà, le premier 0-0.
Voilà, 0-0 entre l'Espagne et
Cap-Vert. Donc Espagne 4-0, 0-0, c'est quand même une grosse surprise et une déception espagnole.
C'est une déception espagnole parce que normalement c'est une équipe qui est censée avoir 2 voire 3 classes d'écart face au Cap-Vert, mais il faut quand même saluer le courage et l'esprit d'équipe des Cap-Verdiens parce qu'il y a toujours eu systématiquement sur chaque occasion espagnole, il y a toujours eu un genou, un pied, un buste, une tête pour repousser les offensives espagnoles, et quand c'était pas un défenseur ou un joueur de champ de manière générale, c'est le gardien qui a fait
une belle fête au Cap-Vert
accrocher les champions d'Europe en titre, c'est une très très belle fête et sûrement des favoris du mondial.
Pierre, c'est une belle fête, pour le Cap-Vert.
C'est la fête au Cap-Vert, bien sûr. Ça rappelle aussi que l'Espagne a quand même beaucoup de mal à marquer des buts. Dans tous les matchs. Ils sont toujours favoris, ils gagnent toujours, ils jouent très bien, mais ils ne marquent pas beaucoup de buts.
Il y a une Coupe du Monde, ils avaient gagné tous leurs matchs 1-0. L'année où ils gagnent la Coupe du Monde, ils avaient gagné. Alors, c'est vrai qu'ils jouaient que devant des équipes qui jouaient derrière aussi. Mais ils avaient gagné tous leurs matchs dans cette Coupe du Monde 1-0.
1-0, oui, à partir des 8e, c'était 1-0. Ils avaient perdu leur premier match contre la Suisse.
Voilà, écoutez, il est 19h57, on marque une petite pause musicale et puis on va passer avec la deuxième mi-temps de cette émission. Donc pause musicale et ensuite, il y a d'autres intervenants qui vont donc réagir sur sur ce début de mondial de foot.
L'argent du beurre, les gens sont mauvais, j'ai tout cerné. Y'a pas que mon cœur qui est RSV. C'est vrai que t'es joli qu'on est deux dans la caisse, mais j'ai pas le cardio pour te courir après.
Y'a beaucoup de bêtises dans mon cœur.
Tu m'aimes de temps en temps, mais
mais pas de New York, New York, pas comme Frank Sinatra. Entre nous c'est bouillon, bouillon, elle parle de ce qu'elle n'a pas. Regarde-moi dans les yeux, l'amour et la haine, je connais les deux. Je suis rentré dans sa tête, comment te passer de moi, je t'en joigne beu. On connaît ton équipe, tes bougies sont graves à la masse. C'est rouge comme dans Corrida, la petite ne veut pas une relation de master. Quand même peu que pour elle, la petite la souhaite ma bague. Ou elle souhaite la bague, mais j'ai pas étudié my bague. Elle appelle sur mon tel avec un autre nu, c'est bizarre. Et comme Jacques à la part, elle m'envoie des mais c'est bizarre. Je crois que la petite veut me faire un boulot. Elle veut me faire un boulot. Un boulot. Elle veut me faire un boulot. Et je suis même pas désolé. Même quand j'ai tort, je sais que j'ai raison. J'entends mon fan raisonner, mais je lui dis que je suis en manque de réseau. Là. Elle s'en fout rien qu'elle m'appelle pour un boulot. Elle veut que je lui fasse un boulot. Un boulot. Elle veut que je lui fasse un boulot. Nakatimini, Nakatibino. J'emploie dans sa tête, elle fait que ruminer. J'arrive après minuit, j'envoie une tonne de Rina. Joue pas avec ma table, tu vas vite te ruiner. Ça blesse, ça blesse. On achète en full, toi t'attends que ça baisse. Elle peut plus m'oublier, j'emploie dans sa tête. En skinny, mais tu sais qu'on pèse. Et oh ma love, j'aime bien quand ça change, faut innover. J'ai un produit stupéfiant, même si t'abuses de moi, tu risques de faire une ode. Nago, Jubayo, Motema. Dégâts sur toi, j'fais dégâts. Puissant quand j'démarre en full beauté, gars, j'étends tout dégâts. Avec que je fais zéro débat. Elle appelle sur mon tel avec un autre nu, c'est bizarre. Et comme Jacques à la part, elle m'envoie des mais c'est bizarre. Je crois que la petite veut me faire un boulot.
Elle veut faire un boulot. Parfois il arrive que le travail devienne trop compliqué. Sauf si vous.
Elle veut me faire un boulot. Et je suis même pas désolé. Même quand j'ai tort, je sais que j'ai raison. J'entends mon fan raisonner, mais je lui dis que je suis en manque de raison. Là. Elle s'en fout rien qu'elle m'appelle pour un boulot. Elle veut que je fasse un boulot. Un boulot. Elle veut que je fasse un boulot.
Full of the game.